Alors, là où nous sommes, c'est l'obéissance. Hein. On avait commencé à parler et puis on avait déjà bien avancé. Il ne nous reste plus grand-chose à faire. Je pense que ce matin, nous devrions terminer. Alors, quelqu'un se souvient des versets ? Matthieu 6, 24. C'est déjà bien d'être arrivé jusque-là. Oui, quelqu'un d'autre ? Non ? Et puis Luc 6, 46. Exact. Et Romains 6, 16, c'est le plus difficile. Ne savez-vous pas ? En vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. C'est un très très bon verset, vous vous rappelez, parce qu'il y a de grandes vérités. Alors, après avoir fait plusieurs choses hein, pour l'obéissance, donc c'était pour... Pourquoi faut-il obéir à Dieu ? Donc pour plaire à Dieu, pour mieux le servir. Et aujourd'hui, c'est pour demeurer en Christ. C'est le commandement que le Seigneur Jésus avait donné à ses disciples, c'est « Demeurez en moi et je demeurerai en vous, de même que je demeure dans le Père et le Père demeure en moi. » C'est donc le Fils est attaché au Père comme le Père est attaché au Fils. Et nous, bien, c'est la même chose par rapport à Christ. Nous devons rester attachés à lui et vivre avec lui et pour lui et en lui. Et, c'est dans sa vie que nous avons la vie, la véritable vie. Donc ça, c'est quelque chose d'important. C'est la raison, c'est afin que l'on porte beaucoup de fruits. Donc l'obéissance, c'est dans ce cas-là, eh bien, c'est de porter beaucoup de fruits, de demeurer en Christ, pour porter beaucoup de fruits. Donc, alors c'est dans Jean 15, hein, Jean 15, verset 5. C'est « Si on ne demeure pas en Christ, la vie chrétienne est vide et n'a pas de sens. » C'est une des raisons hein, pour lesquelles on doit demeurer en Christ. Alors, celui qui a le verset le lit, Jean 15, verset 5.
Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien.
Voilà. Donc, il nous dit que de demeurer en Christ, demeurer en lui, eh bien, c'est disons, c'est comme cela que nous aurons beaucoup de fruits. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Donc c'est l'obéissance, ça. Si on ne demeure pas en Christ, eh bien tout le reste n'a pas vraiment de sens. On peut faire beaucoup de choses. Il y a des chrétiens qui font des multitudes de choses. J'ai vu des chrétiens dépenser une énergie folle. Non seulement énergie, moyens matériels, argent et tout, mais en fait, il n'y a rien qui demeure en Christ, là. On fait des activités pour Dieu. Mais en fait, ce n'est pas Dieu qui commande, ce n'est pas Dieu qui dirige les choses, c'est l'homme qui les dirige, et c'est l'homme qui demande à Dieu de bénir ses entreprises. Mais ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Et à partir de là, eh bien, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait pas de résultats, ou les résultats que l'on a ne sont pas ceux que l'on attendait. Parce qu'il n'y a pas une vraie vie. Il y a simplement de la bonne volonté, mais pas l'obéissance. Ensuite, Jean 15, verset 7.
Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé.
Voilà. Alors, demeurer en Christ, c'est non seulement de l'obéissance, Mais le fruit, là, c'est que nos prières sont exaucées. On prie, on demande, et Dieu exauce nos prières. C'est le demander ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. C'est comme disait un grand serviteur de Dieu, c'est le chèque en blanc du Seigneur. C'est, vous mettez la somme que vous voulez. C'est signé. Mais il faut demeurer. C'est ceux qui ne demeurent pas en Christ, eh bien, ne peuvent pas se réclamer de cette promesse. Mais ceux qui demeurent en Christ, oui. Parce que quand on est dans l'obéissance, eh bien, Dieu peut exaucer nos prières. Et on ne va pas demander des choses qui sont des désobéissances. C'est toujours dans l'obéissance que nous demandons certaines choses. Donc Dieu sait qu'il peut nous faire cette garantie extraordinaire de tout ce que vous demanderez vous sera accordé. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est, mais tout. C'est tout, ça veut dire tout. Et c'est quand quelqu'un marche dans l'obéissance, quand quelqu'un est attaché à Christ, quand quelqu'un vit pour Christ et avec Christ, là il y a des prières exaucées parce que Dieu s'est engagé à exaucer ces prières-là. Parce que quand il y a l'obéissance, Dieu sait qu'il peut exaucer les prières de quelqu'un qui est obéissant. Il ne va pas, la personne ne va pas demander des choses qui sont des folies, des choses impensables, des choses que Dieu ne pourrait pas exaucer. Dieu peut toujours exaucer la prière de quelqu'un qui marche dans l'obéissance. Parce que justement, il y a une marche dans l'obéissance. C'est pour cela que la garantie de cette promesse est si grande et si extraordinaire. Et je peux vous dire, si vous marchez avec le Seigneur, si vous êtes fermement attaché à lui et que lui règne dans votre vie, alors il n'y a pas grand-chose qui est impossible. Et il y a des chrétiens qui se sont réclamés de cette promesse. Ils ont dit, Dieu, tu as dit dans ta parole, parce qu'ils marchaient dans l'obéissance, et ils obtenaient ce qu'ils avaient demandé. Ils obtenaient de Dieu ce qu'ils avaient demandé. Dieu agissait en eux, au travers d'eux, et ils faisaient de grandes choses. Parce que ces personnes étaient fidèlement attachées, non seulement à sa parole, mais à la personne même du Seigneur Jésus. Ils marchaient dans l'obéissance. Et je parle au passé parce que aujourd'hui il y a beaucoup moins de gens qui marchent dans l'obéissance, qui ont vraiment l'esprit d'obéissance, qui désirent vraiment tout faire pour plaire à Dieu, même si ça leur coûte très cher dans leur vie. Et c'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors, Jean 15, verset 10. Voilà. Alors, l'exemple que le Seigneur Jésus donne, eh bien, c'est lui-même. Et il dit que lui, il est resté attaché à son Père. Il demeurait dans l'amour de son Père et son Père demeurait en lui. Donc, en fait, c'est l'exemple que nous avons sous les yeux de demeurer, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est très important de se rappeler que le Seigneur Jésus-Christ nous a montré le bon chemin. C'est lui qui est notre lumière. Et nous apprenons de lui. Hein. Philippiens 2, verset 8. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez imaginer une seule seconde que le Seigneur Jésus-Christ ait désobéi et qu'à Gethsémané, il ait dit non. Finalement, la croix, non. C'est trop. Non, non. Tout, mais pas ça. Vous connaissez sans doute Rabelais. Rabelais était un chrétien, né de nouveau. Mais il a dit, je suis chrétien, jusqu'à la mort, Exclusivement. C'est-à-dire que chrétien, d'accord, mais pas aller jusqu'à la mort. Il n'était pas prêt à mourir pour Christ. Donc il faisait profession d'être chrétien et il lisait la Bible, il priait, il faisait beaucoup de choses comme un chrétien né de nouveau. Mais il n'était pas prêt à aller jusqu'au bout. Et même si, quand vous lisez Gargantuel et Pantagruel, Gargantua et Pantagruel, eh bien, vous retrouverez l'évangile dedans. Il rendait témoignage, d'une certaine manière. Et il y a des principes chrétiens, et il y a des condamnations du catholicisme, etc. Et de la scolastique en particulier. Donc, il faisait de la polémique, mais caché derrière des images. Et alors, parce qu'il ne voulait pas aller jusqu'à la mort. Il n'a pas rendu témoignage fidèlement, parce qu'il ne voulait pas aller jusqu'à la mort. Mais le Seigneur Jésus, lui, est allé jusqu'à la mort. C'est imaginer la désobéissance si le Seigneur Jésus avait été désobéissant, s'il avait voulu être resté dans le ciel. S'il avait dit après tout, oh, je préfère quand même, c'est tranquille, hein, je ne vais pas descendre pour ces humains, ils sont tellement bêtes que ça ne vaut pas la peine de m'occuper d'eux. Eh bien, on aurait été perdu. Et c'est parce qu'il a été obéissant que nous sommes sauvés. Et nous ne savons pas un acte de désobéissance, ce qu'il peut coûter, de quoi il nous prive, et comment nous avons privé des personnes de connaître Dieu et de marcher fidèlement et de connaître mieux l'évangile, de connaître mieux la parole de Dieu ou d'être secouru. C'est si le Seigneur vous dit prie, eh bien priez. S'il vous dit de lire votre Bible, lisez votre Bible. S'il vous dit de parler à quelqu'un, parlez. S'il vous dit c'est comme cela que l'on est attaché au cep et que l'on est vivant. Il y a une vie qui se transmet entre le cep et le sarment, entre Christ et nous. Et cette vie se transmet, se propage, et c'est comme cela qu'il y a du fruit. Parce que la vie, elle est en Christ. Nous n'avons pas la vie en nous-mêmes. Sans Christ, nous n'avons pas la vie. Mais c'est quand Christ est vraiment le cep de notre vie que la vie peut couler. Et alors, à partir du moment où nous marchons dans cette obéissance, eh bien, nous portons du fruit. Et Dieu manifeste sa vie et il dit, prie, lis ta Bible, témoigne, parle à cette personne, dis, et vous obéissez, et vous avez autour de vous eh bien, des personnes qui sont enrichies par votre ministère, votre présence, votre joie, votre paix, les paroles que Dieu met dans votre bouche. Et beaucoup de gens disent après, mais cette personne m'a dit exactement les paroles dont j'avais besoin. Mais parce que justement, il y a une vie qui coule, on porte du fruit. C'est tout simple. Donc si nous avons la vie chrétienne, si nous pouvons avoir la paix avec Dieu, si nous pouvons marcher à la lumière, si nous pouvons lire la parole de Dieu, eh bien, c'est parce que Christ a obéi. Et ça, c'est un point très, très important. Donc, il est demeuré dans le Père comme nous devons demeurer en Christ. C'est de la même manière. Il ne nous a pas proposé quelque chose d'étrange et une nouveauté, mais c'est quelque chose qu'il vivait lui-même. Alors, le point suivant, pour grandir spirituellement. Alors, bon, on pourrait dire que tout se touche. Hein. C'est notre vie chrétienne, doit être une vie de croissance. C'est le chrétien qui ne grandit pas, est un chrétien qui régresse et qui est sur un très mauvais chemin. La vie chrétienne est une vie de croissance. Dès que l'on n'a plus l'intention de grandir et d'avancer avec le Seigneur, c'est que on s'est fatigué de Christ, on s'est fatigué de la vie chrétienne, on s'est fatigué de la parole de Dieu, d'aller aux réunions. Et il y a beaucoup de chrétiens qui, à un certain moment, ne fréquentent plus les réunions. Et j'ai rencontré des chrétiens qui m'ont dit « Oh, tu sais, j'ai été déçu. » Mais en fait, ils sont peut-être déçus par les humains, mais pas par Dieu. Ce n'est pas Dieu qui les a déçus, ce sont les humains. Donc on fait attention de ne pas confondre ce qui est humain et ce qui est divin. C'est les êtres humains, bien évidemment, vous allez être déçus. C'est le meilleur d'entre les humains, et bien un jour vous allez voir ses défauts et vous allez être déçus. Ou vous allez voir un défaut. Et c'est à ce moment-là, vous allez dire, mais je suis déçu. Mais on n'est pas déçu de Dieu. C'est l'être humain, donnez-lui la place d'être humain. Ce n'est pas Dieu qui est en cause, c'est qu'un être humain. Et c'est dommage que des chrétiens, parce qu'ils ont vu des choses graves dans les églises ou dans le comportement de certains serviteurs de Dieu, eh bien, se sont détournés du Seigneur et ne fréquentent plus des églises, ne fréquentent plus d'autres chrétiens, se tiennent à l'écart de tout ce qui est chrétien. Ils se disent, oh, ben, je suis chrétien dans mon coin. Et il y a des personnes, c'est en famille. Ils continuent, ils lisent la Bible en famille, ils prient, ils font des petites choses en famille, mais même ils ont un culte. Le dimanche matin, ils rendent un culte. Mais ils ne se joignent plus à aucune église parce qu'ils disent « Je suis déçu des églises, il y a trop de choses qui ne vont pas, etc. » Mais ce n'est pas une bonne raison. Ce n'est pas une bonne raison. Pour grandir spirituellement, eh bien, il faut obéir. Et Dieu nous a donné des directions. Hein. Donc, ce qu'il y a, c'est que notre vie chrétienne, on peut être parfois aussi déçu de notre vie chrétienne. Il y a des chrétiens qui se sont déçus eux-mêmes. Ils ont dit, ben, je n'y arriverai pas. C'est trop difficile pour moi. Je n'y arriverai pas. Mais on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas choisi l'obéissance. C'est quand le cœur est partagé et que l'on sert deux maîtres, eh bien, on n'y arrive pas. La vie chrétienne n'est pas facile, parce que il y a deux maîtres. On n'a pas choisi celui qui devait dominer dans notre vie. Donc, on avance avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup de tristesse, et il y a un handicap, parce qu'il y a un cœur partagé. Mais dès que l'on est tout entier à Christ, que Christ est vraiment le Seigneur de notre vie, qu'il règne dans notre vie, eh bien, tout devient facile. Ça ne veut pas dire que tout est simple. Il y a des moments difficiles, mais avec Christ, on est porté, on est soutenu, on est encouragé. Et parfois, eh bien, il y a des épreuves de la foi où il semble ne pas être là. Il semble ne pas nous écouter. Il semble, mais il ne fait que sembler, parce qu'il est toujours là, il nous écoute toujours, et il veille toujours sur nous. Mais la vie chrétienne partagée est une vie de misère, une vie où on traîne spirituellement. Ceux qui ont le cœur partagé emportent la peine, et c'est une souffrance. Je peux dire, il vaut mieux choisir d'un côté ou de l'autre que d'être partagé, parce que partagé, on n'est vraiment pas comme il faut. Notre vie chrétienne ne va pas. Ça, c'est le... j'ai surversé. C'est le 6, verset 16. Romains 6, verset 16. C'est celui que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. C'est quelqu'un? C'est bien de lire la parole de Dieu.
Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice.
Voilà. Alors quand on a un cœur partagé, c'est qu'en fait, il y a un péché que l'on tolère dans notre vie. Quelque chose, une désobéissance. Ça peut être n'importe quoi. Et je peux vous dire, il y a des chrétiens qui sont partagés avec des choses qui sembleraient très légitimes. Certains, c'est du sport, d'autres, c'est la télévision, d'autres, c'est un club, d'autres, c'est une multitude de choses qui captivent notre vie. Quand on s'arrête et que l'on pense, hop, tout de suite, cette chose-là vient à notre esprit. Il y a des personnes, ils peuvent vous parler du dernier film. C'est d'autres personnes, c'est de leur travail. D'autres, c'est l'informatique. D'autres, c'est les téléphones portables. D'autres, c'est les activités de loisirs. D'autres, c'est les vacances. Tout ce que vous voulez, dès que ces personnes ont un petit peu de temps libre, eh bien, elles se lancent dans leur activité favorite. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas esclaves de Christ. Elles ne demeurent pas en Christ. Donc, il y a une vie de misère. On traîne. Parce qu'il n'y a pas un choix définitif de Christ. C'est malheureusement, c'est le mal de notre époque. Hein. C'est le manque de chrétiens. Non pas, il y a une certaine consécration qui est une consécration même à son Église. Mais on n'est pas consacré à Christ. Et il y a des personnes, ce n'est pas Christ dans leur vie, c'est leur Église. Et beaucoup de pasteurs travaillent à la croissance de l'Église, mais pas à ce que Christ soit glorifié. J'ai rencontré cela, hein, des pasteurs très 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 actifs, très très actifs. Mais en fait, ce n'est pas Christ qu'ils cherchent. C'est l'Église, c'est la vérité. C'est toutes sortes de... Alors on me dit, mais tu ne vas pas condamner quelqu'un qui fait tant de choses pour Dieu. Oui, mais est-ce qu'il les fait avec Dieu? C'est pour Dieu, c'est pas avec Dieu. Il y a un problème. Et ces personnes, eh bien, ne grandissent pas spirituellement. Il n'y a pas de croissance. Parce que il y a un cœur partagé. Il y a des choses qui dominent dans leur vie, qui prennent la première place. Et ces choses qui prennent la première place, eh bien, les empêchent d'être des chrétiens vivants, authentiques, fructueux, bénis de Dieu, et avec qui ont des prières exaucées, leur croissance se voit, et on les rencontre des années plus tard, et on se dit, oh, mais il a grandi, il s'est amélioré. On sent, quand on rencontre la personne, qu'elle a fait des progrès. Elle a avancé dans la vie chrétienne. Alors que ces chrétiens, vous les rencontrez 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard, ça reste toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Il n'y a rien qui change. Et c'est toujours le même langage. Toujours, même parfois, la même dureté. C'est du diamant. Ils sont aussi imperméables que le diamant à toute vérité, à tout ce que le Seigneur peut leur donner. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On peut être esclave même de la vérité. Quand elle est prise dans le mauvais sens, on peut être esclave même de ces choses-là. Mais on peut être esclave de l'évangélisation. Je connais des personnes qui ne peuvent pas... Ils y vont. Mais où est le Seigneur dans tout ça? Où est le Seigneur? C'est les cœurs partagés. Et il y a des personnes qui vivent dans le péché... Et ça, bon, c'est visible. Mais après, il y a ceux qui, ce sont les choses qui sembleraient être spirituelles. Mais c'est eux, c'est leur œuvre. Ce n'est pas le Seigneur en eux. Et il n'y a pas de croissance spirituelle. Et c'est toujours un danger de ne pas choisir, de ne pas avoir choisi le bon maître. Voilà. Et puis, on va essayer de terminer. Vous avez ce passage que je voulais vous lire il y a tout à fait au début. 1 Samuel 15, verset 23. 1 Samuel, chapitre 15, verset 23. Voilà, ça c'est la triste histoire de Saül. Hein. C'est à un moment donné, Saül a fait quelque chose, a désobéi. Mais si vous regardez bien, il n'a pas désobéi, il n'a pas été idolâtre, il n'a pas transgressé un des commandements de Dieu, il a transgressé seulement qu'il a offert lui le sacrifice alors que c'était le souverain sacrificateur qui devait offrir le sacrifice, ou un sacrificateur. C'est, voilà, c'est là qu'est la désobéissance de Saül. Il a manqué de foi. Il n'a pas fait confiance à Dieu totalement. Alors, il a eu peur et il a offert le sacrifice. Vous dites, mais quand même, Dieu est exigeant. Pour une chose pareille, il a quand même rejeté Saül. Il a rejeté pour cela. Et c'était quelque chose de spirituel. Quelque chose que le sacrifice devait être offert. Après tout, vous pouvez vous dire, puisqu'il fallait qu'un sacrifice soit offert, que ce soit lui ou un autre, eh bien c'est pareil. Mais non, c'était le sacrificateur qui devait offrir le sacrifice. Donc, Saül a commis un grand péché, il a désobéi à Dieu, il a désobéi gravement. Et c'est la triste histoire de Saül. C'est l'histoire de quelqu'un qui a désobéi, qui a presque obéi à Dieu. Presque. Il y a des moments où, vous voyez, Saül a fait de grandes choses, mais à deux ou trois reprises, il n'a pas fait ce que Dieu lui demandait de faire. Il a désobéi. Et je vous encourage à lire l'histoire de Saül. Vous verrez que ce n'était pas un mauvais roi, au plein sens du mot. Il y a des rois d'Israël qui ont été idolâtres et qui ont mis à mort des gens. Mais Saül n'a pas mis à mort de gens, il n'a jamais adoré d'idole, il a toujours encouragé le culte du vrai Dieu, il a fait beaucoup de choses qui, s'il n'y avait pas ces deux ou trois petites désobéissances dans sa vie, eh bien il aurait été un des meilleurs rois d'Israël. Mais il n'a pas été, été soumis à Dieu strictement dans ce que Dieu lui demandait. Il avait un cœur partagé. Ce n'est pas Dieu qui était à la première place. C'était le bien d'Israël, c'était la royauté, c'était que les choses, même le triomphe de Dieu qui était dans son but, c'était le triomphe de Dieu, mais ce n'était pas Dieu lui-même. Il n'y avait pas l'obéissance complète et définitive, quoi que cela coûte. Voilà, nous allons arrêter là.